Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Vous l'avez certainement remarqué, les émissions Vivante Église du lundi sont traditionnellement dévolues à la vie spirituelle. Et quand on prend l'habitude d'une vie de prière, d'une vie spirituelle, il est une réalité qui saute rapidement aux yeux. Le besoin de trouver de bons guides. Difficile en effet d'avancer sur ce continent souvent méconnu de la vie en Dieu. C'est peut-être parce que le rapport de force, si je puis dire, n'est en général pas en faveur du débutant que les risques de dérive, d'abus même, sont réels. Ce matin, je vous propose un petit traité d'accompagnement spirituel. L'accompagnement spirituel, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Émission donc enregistrée à l'occasion du pèlerinage du Rosaire. C'est donc un faux direct, comme on dit dans le jargon. Et nous sommes justement avec le prédicateur de ce pèlerinage du Rosaire qui a eu lieu donc à Lourdes la semaine dernière. Prédicateur pour cette année 2020. Il s'appelle Pavel Sisoyev. Il est dominicain, théologien et auteur donc d'un ouvrage intitulé « De la paternité spirituelle et de ses contrefaçon, paru aux éditions du CR. Bonjour.
Bonjour.
Merci de prendre le temps de cette émission. Alors pour une fois, on fait un faux direct, mais je me suis dit que l'occasion était belle de parler de ce sujet délicat. Délicat s'il en est. D'ailleurs, vous commencez par ça. Derrière l'accompagnement spirituel, je n'ai pas eu le temps de le dire en introduction, sinon ça aurait fait une introduction trop large. Mais il y a en partie toutes les affaires terribles de pédocriminalité dont on a entendu parler dans l'Église, ou un certain nombre de crises de communautés nouvelles. Et d'ailleurs, c'est votre propos presque introductif. Vous dites la mémoire de toutes ces personnes ayant été abusées par des faux maîtres, cette mémoire me hante. Est-ce que c'est ce qui a motivé l'écriture de cet ouvrage ?
En partie. C'était un des motifs. Bien sûr que nous commençons d'emblée, c'est quelque chose de plus attirant de parler des abus et des crises. Je tenais à dire d'abord ce qu'est la paternité spirituelle, avant de dire quelles sont ces contrefaçons. Mais la nécessité de le redire, et de redire les choses qui semblent être absolument évidentes pour ceux qui vivent paisiblement et heureusement de cette paternité spirituelle, la nécessité de le redire venait aussi du fait de plusieurs rencontres ou de plusieurs témoignages que j'ai eu à accueillir ou que j'ai eu à parcourir, des personnes qui ont souffert des abus de l'accompagnement spirituel, des abus de paternité spirituelle. Donc d'une certaine manière, je dirais que ce n'est pas une cause de ma réflexion, mais c'est une occasion de cette publication. La cause, c'est bien sûr l'amour de la paternité spirituelle et l'immense reconnaissance que nous devons à ces maîtres qui nous ont introduits dans la vraie vie de l'esprit, dans la vie de prière, qui nous ont permis de grandir dans la liberté de l'enfant de Dieu, mais aussi le sentiment de l'immense gâchis face à telle ou telle personne qui commençait avec une immense sincérité et un vrai désir de se donner à Dieu, et qui parfois est tombé sur les personnes, les hommes, les femmes, qui ont dévié cette quête.
D'envier cette quête. Vous ajoutez évidemment dans votre propos introductif, j'espère de tout mon cœur aura lieu un grand travail d'assainissement en profondeur sur ce sujet dans la vie de l'Église. Alors justement, vous apportez votre pierre, et c'est une pierre importante. Je vous propose qu'on va parcourir votre ouvrage, tout simplement. On va parler de la paternité et on va dire des différentes formes que peuvent recouvrir l'accompagnement. Peut-être pour un certain nombre d'auditeurs, ça sera une nouveauté, l'occasion de les découvrir. Après, dans l'autre partie de l'émission, on parlera des pathologies que vous décrivez, et puis après des moyens de les guérir. Alors si on parle du début, vous remontez, on va dire, loin, vous rappelez que Dieu est Père, mais vous dites aussi dans ce propos que Dieu, ça n'est pas l'apanage du christianisme de dire que Dieu est Père. Alors quelle est la particularité du christianisme sur ce sujet ?
Je ne dirais pas que je remonte loin, je dirais que je remonte à quelque chose qui est éternellement présent, et ce rapport-là extrêmement près, parce qu'au cœur de notre foi chrétienne, il y a cette révélation faite par le Christ. Chaque fois quand vous dites « notre Père », vous confessez que Dieu est Père. Et de fait, ici, le christianisme a apporté quelque chose de radicalement nouveau. Le Dieu chrétien n'est pas le Père qu'on peut l'être Zeus, Dieu des Dieu, Père des dieux et des hommes. Autrement dit, Dieu comme principe de tout, comme créateur de tout. Dans le christianisme, il y a quelque chose de beaucoup plus. Jésus nous introduit dans sa relation personnelle, intime, unique avec son Père, et il fait de nous les enfants d'adoption. Autrement dit, cette paternité spirituelle n'est pas un petit rajout qui existerait quelque part à la périphérie de la vie chrétienne. C'est le cœur même de notre confession de foi. Nous croyons que Dieu est Père, pas simplement parce qu'il est créateur, mais parce qu'il a le Fils unique, ce Fils unique qui est venu partager notre vie, et nous sommes appelés à entrer dans cette adoption filiale qui nous est donnée par l'Esprit-Saint.
Alors, à ce sujet, à propos de l'accompagnement spirituel, vous faites aussi une mention importante. Au final, c'est Dieu qui fait entrer dans cette filiation. Il ne faut pas, entre guillemets, il ne faut pas confondre. Oui, dans la vie spirituelle, Dieu seul peut se donner, et nul ne peut engendrer à sa place. C'est un préambule nécessaire.
Bien sûr. Autrement dit, Dieu seul peut donner Dieu. Et là, toutes les questions et les pages qui suivent y entrent. Mais alors, quelle est la place pour les créatures ? Et quelle est la place pour les apôtres ? Quelle est la place pour les parents qui éduquent les enfants dans la vie chrétienne ? Est-ce qu'ils participent à cette paternité de Dieu ? Ou est-ce que c'est nécessairement quelque chose d'abusif ? Autrement dit, lorsque nous entendons le Christ nous dire « et n'appelez personne sur terre, ne donnez à personne sur terre le nom de Père », est-ce que cela signifie que votre Père, que mon Père, ne sont pas véritablement des pères et ce ne sont que des usurpateurs et du coup il faudrait se débarrasser de toute forme de la paternité. Entre autres, face à des crises, bien sûr, la réaction tout à fait compréhensible, mais à mes yeux dommageable, consiste à dire, bon, voilà, abandonnons toute cette tradition de la paternité spirituelle.
Face à toutes les crises que l'on citait en préambule de l'émission.
Donc abandonnons cela parce que cette prétention à être père ne peut être qu'une usurpation.
Il y aurait de multiples, on va dire, choses ou préambules à rajouter. J'en rajouterai juste un avant qu'on parle des différents types d'accompagnement. Vous laissez entendre que l'accompagnement spirituel, donc toutes différentes formes de paternité, quelle que soit, on va dire, l'importance de cette paternité, on ne sort pas indemne de cela. C'est-à-dire, en fait, c'est un lieu de don qui coûte, à vous lire.
Je reprends assez longuement ce que dit saint Paul sur cette paternité, en rappelant d'abord que c'est de la paternité de Dieu que toute paternité sur terre et au ciel tire son nom. Autrement dit, toutes les formes de paternité, naturelles, spirituelles, quelles qu'elles soient, sont une certaine participation à l'unique paternité de Dieu. Du coup, un homme, une femme se met au service de cette vie qu'il s'agit de transmettre, qu'il s'agit de donner, mais qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas ramener à soi. Et dans ce don qui engendre, on y laisse nécessairement quelque chose de soi. C'est pas, les parents le savent, il y a une immense joie de cette paternité, mais elle demande aussi de se donner. Il y a une joie et un immense bonheur dans l'enseignement, mais on sait très bien qu'un professeur de qualité donne quelque chose de lui-même. Dans la paternité spirituelle, c'est d'autant plus fort, car certainement il faut payer de sa personne, entre autres dans cet effacement qui est demandé au père ou à la mère spirituelle.
Alors, parlons des accompagnements. Partons du principe que tout le monde n'est pas familier de l'accompagnement. Peut-être la première chose à dire, c'est qui accompagne et qui a besoin d'être accompagné. Dans l'esprit, je pense, d'un certain nombre d'entre nous, d'auditeurs, on se dit qui accompagne, ben, c'est forcément un prêtre ou un religieux. Et qui a besoin d'être accompagné. Peut-être aujourd'hui se dit-on que tout le monde aurait besoin d'être accompagné alors que c'est plus compliqué que ça. Alors qui accompagne et qui a besoin d'être accompagné, frère Pavel Sisoyev ?
Je pense que ça dépend beaucoup de ce que nous entendons par cet accompagnement et ce que nous attendons aussi de cet accompagnement. C'est pour ça que je consacre un petit chapitre à ces différentes formes de paternité ou de l'accompagnement spirituel. Il y a les choses qui sont très intimement liées à la vie sacramentelle, autrement dit la confession. Tout d'abord la confession régulière, et peut-être même le prêtre deviendra un confesseur habituel.
Mais si vous voulez, avant de parler des différents types, est-ce que vous pouvez juste nous dire en général qui, entre guillemets, est apte à accompagner et dans la vie, qui a besoin d'être accompagné? Alors, si on reste sur le premier, est-ce l'apanage des prêtres et des religieux?
Et c'est une des choses sur laquelle j'insiste tout au long du livre, à savoir la paternité spirituelle qui prend une forme toute particulière et particulièrement importante pour les prêtres, n'est pas réservée aux prêtres, ni aux religieux, ni même aux religieuses. Il s'agit, c'est quelque chose qui est ancré dans notre vie baptismale, dans la consécration baptismale. Chaque baptisé vit de cette vie filiale avec Dieu et est appelé à engendrer les autres à cette vie filiale. Pensons encore une fois aux parents chrétiens. Ce ne sont pas des prêtres, des religieux ou des religieuses, mais ont été consacrés par leur baptême, consacrés par leur mariage. Leurs enfants seront pas simplement amenés dans une vie biologique ou sociale, ils seront aussi amenés dans la vie de l'esprit, et les parents seront aussi pour leurs enfants ceux qui les introduisent dans la vie de prière, dans la vie des sacrements, dans la vie de la connaissance de Dieu. Donc le premier fondement de la paternité spirituelle, c'est avant tout la grâce du baptême. C'est pour ça, dans le petit parcours historique au premier chapitre, je rappelle que ce thème même de la paternité spirituelle a été particulièrement élaboré dans les milieux monastiques, dans les débuts du monachisme, ce qu'on appelle les pères du désert. Et l'immense majorité des pères du désert n'étaient pas des prêtres.
Ça, c'est pour, on va dire, les personnes qui accompagnent. Qui a besoin d'être accompagné? Vous laissez entendre, et c'est souvent ce qu'on entend, hein, donc on va dire pas de surprise pour ceux qui sont un petit peu avertis, que globalement, on peut avoir une vie chrétienne, une vie de prière, une vie en Dieu, sans forcément être accompagné, que l'accompagnement, ça serait plutôt pour les étapes clés de la vie ou les situations, on va dire, particulières.
Disons que là, ce besoin devient criant. Mais je pense que de même que vous visitez votre dentiste une fois par an, comme minimum, de même que de temps en temps, vous avez un petit rendez-vous avec votre médecin traitant, que de temps en temps, vous consultez, si vous, je sais pas, dans les affaires ou dans la vie d'entreprise, vous avez aussi les gens qui vous consultent, qui vous accompagnent. Je pense que dès qu'on prend les choses un peu au sérieux, de temps en temps, il est utile de faire un petit point sur sa vie spirituelle. Et ici, par exemple, à Lourdes, pendant le rosaire, c'est quelque chose qui, de fait, saute aux yeux. Donc, cette petite expérience d'être confesseur ici au pèlerinage pendant quelques années, pour beaucoup de personnes, c'est un rendez-vous annuel qui leur permet de faire un petit point sur leur vie de prière, leur vie de couple, sous le regard de Dieu, leur vie professionnelle, les dates clés de leur existence, puisque chacun de nous est appelé à la sainteté et chacun de nous est appelé à une sainteté radicale. Du coup, chacun de nous, une maman ou un autre, a besoin de ces hommes, de ces femmes qui nous aideront à nous épanouir pleinement dans notre vie spirituelle.
Alors, les différents types d'accompagnement, à vous lire, il y aurait en fait trois grands types, j'ai envie de dire. On va dire la vie courante, comme ça serait comme la consultation peut-être du médecin généraliste ou du dentiste annuel, comme vous dites. Ça, c'est tout chrétien, donc à vous lire, devrait au moins une fois par an donc se réconcilier avec Dieu, donc vivre le sacrement de réconciliation, comme on dit, ou on appelle ça aussi la confession. Donc ça peut être comme un premier pas dans l'accompagnement, et vous laissez entendre que sinon on peut aller plus loin soit pour conseil spirituel, soit vraiment pour accompagnement. Alors quelles sont un peu ces trois modalités?
C'est-à-dire que lorsque je viens dans la confession, je cherche la réconciliation avec Dieu et avec l'Église. Le rôle du prêtre ici est essentiellement ministériel. Il se peut qu'à l'occasion d'une confession, le prêtre me donne un conseil ou je sollicite un conseil de sa part. Et là, nous sentons que nous franchissons une petite marche, il y a quelque chose de plus. Et lorsqu'il s'agit de votre confesseur habituel, donc quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui vous suit, vous sollicitez auprès de lui son avis sur telle ou telle chose. Et là, j'insiste lourdement sur le fait que le conseil, c'est un conseil, ceci n'est pas un ordre. C'est-à-dire, le prêtre qui vous accompagne de cette manière-là apporte la lumière de son expérience personnelle, mais aussi de la formation qu'il a reçu, de cette tradition de l'Église dont il est normalement bénéficiaire, qui vous permet de mieux juger, de mieux voir et de prendre vos décisions d'une manière plus éclairée. Et là, nous entrevoyons qu'il s'ouvre tout à fait un autre domaine, qui ne sera pas uniquement le domaine sacramentel lié à la confession, mais qui sera le domaine de conseil de l'accompagnement. Et ce domaine-là ne sera pas du tout réservé à un prêtre. Imaginons que dans votre vie de couple chrétien, vous traversez un moment qui peut s'avérer quelque peu délicat. Il est tout à fait normal que vous vous adressez à un couple chrétien qui vous précède, pour qui vous avez du respect. Voilà, il y a telle ou telle situation. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, ce qui va jouer avant tout, ce ne sera pas tant sacerdoce, pas sacerdoce, que l'expérience ou pas l'expérience. Donc là, nous sommes au niveau du conseil spirituel, quelque chose de beaucoup plus large. Et puis, à partir de là, s'ouvre le chemin vers ce qu'on peut appeler l'accompagnement spirituel, que ce soit au moment clé de votre existence, ou peut-être quelque chose de plus long, et là, l'accompagnateur peut être un prêtre, ou un laïc, un consacré ou un séculier, pour reprendre l'expression classique. Ce qui compte ici avant tout, c'est l'expérience. Voilà, vous allez au Carmel de Lourdes, vous demandez à avoir un parloir avec une sœur, vous dites, voilà, ma mère, aidez-moi pour ma vie de prière. Voilà comment je prie, voilà quelles sont les difficultés que je rencontre. Vous avez l'expérience de la vie de prière, apprenez-moi, dites-moi, éclairez-moi.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver. Vous rappelez aussi que c'est toujours un grand mystère dont nous ne sommes pas maîtres. Et là, vous parlez de ceux qui accompagnent. Voilà, chaque personne est un mystère et une histoire sainte et qu'il faut marcher évidemment sur la pointe des pieds. Je rappelle le titre de votre livre, De la paternité spirituelle de ses contrefaçons, paru aux éditions du Cerf.
Thank you.
Emmanuel Pella.
L'accompagnement spirituel, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce lundi. Faux direct, secret de fabrique, puisque nous sommes dans les studios de Lourdes à l'occasion donc du pèlerinage du Rosaire avec le prédicateur de ce pèlerinage 2020. Pour ceux qui n'auraient pas suivi à Lourdes, la famille dominicaine, comme chaque année autour de la fête de Notre-Dame du Rosaire, donne rendez-vous là-bas. Et cette année, ils avaient répondu présent en dépit des circonstances sanitaires que l'on connaît. Nous sommes donc avec vous, Pavel Sisoyev, dominicain. Vous êtes dominicain, théologien, et donc auteur d'un ouvrage intitulé « De la paternité spirituelle et de ses contrefaçons ». Alors, les contrefaçons, là peut-être que ça va en effrayer certains, ou alors pour d'autres ça va être douloureux parce qu'ils ont fait des expériences difficiles de l'accompagnement. Ces pathologies, vous en montrez 5 du doigt. La première, et peut-être la plus surprenante, c'est la démission. Ce serait comme une pathologie par défaut, dites-vous. Et là, vous prenez l'expression d'un ami prêtre ou d'un frère prêtre qui vous a confié, semble-t-il, au début de son ministère, « Je sais être un frère, je n'ai pas appris à être père ». Qu'est-ce que c'est que cette première pathologie ?
En fait, avant de parler des pathologies en quelque sorte par excès, je voulais attirer l'attention sur tout un domaine qui reste moins visible et qui sont les pathologies par défaut, la démission, le formalisme, le dilettantisme, c'est-à-dire que les formes faibles de la paternité. La démission, j'ai rien à transmettre, j'ai pas de tradition que je peux donner. Vous cherchez un père, vous trouvez quelqu'un qui veut être votre copain. Vous cherchez quelqu'un qui pourra vous donner un conseil sûr, ce qui ne signifie pas qu'il résoudra tous vos problèmes, mais quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un sur qui vous voulez vous appuyer. Et au lieu de ça, vous trouvez ou bien des dilettants, ou bien des fonctionnaires, ou bien tout simplement les gens qui vivent avec une conscience qu'ils n'ont rien à transmettre, voire même qu'ils ne doivent rien transmettre. En quelque sorte, nous sommes ici dans ce domaine de la démission, comme dans cet univers où l'enfant serait censé de construire entièrement par lui-même son savoir. Mais pour pouvoir construire sa vie spirituelle, il faut recevoir un héritage. On apprend à prier, on apprend à lire les Écritures. On entre dans l'intelligence de la théologie. On entre dans la finesse et dans la justesse des rapports de la vie ecclésiale. Si je ne rencontre pas des pères et des mères qui m'initient à ces domaines-là, qui m'initient à la vie de l'horizon, qui m'initient à la théologie, je passerai à côté de ces pans entiers des trésors de l'Église. Et de mon point de vue positif, n'est-ce pas, chacun de nous, en faisant mémoire de sa vie spirituelle, nous savons ce que nous devons à une telle rencontre, à telle personne, alors, à tel homme, telle femme qui nous ont initiés à un monde qui, sans cette initiation, resterait inaccessible.
Vous êtes assez mordant dans ce chapitre. Vous parlez entre autres des prêtres et de leur formation, voire même vous parlez aussi des rapports que les prêtres ont avec leurs évêques. Alors voilà ce que vous dites. Pour combien d'entre eux, l'expérience du séminaire ou des années de formation au couvent ont été perçues d'abord comme une surveillance continue et non vécues comme une confiance encourageante? Ça c'est dit, et puis vous enfoncez le clou à d'autres endroits. Et puis pareil, quant au rapport du prêtre avec son évêque, vous laissez entendre que ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est parfois justement une paternité spirituelle défaillante.
Écoutez,
il fallait dire les choses de manière aussi claire et nette.
Écoutez, quand vous avez une situation pour avoir le rendez-vous avec l'évêque, il faut passer par la secrétaire. C'est tout à fait normal pour l'organigramme de l'entreprise, mais il est tout à fait clair qu'on ne peut parler de la paternité ici que dans un sens de caricature. Vous pouvez imaginer que pour rencontrer votre père, vous devez prendre un rendez-vous avec sa secrétaire. Donc si c'est ça la paternité, alors il est tout à fait clair que les premières personnes qui souffrent peut-être le plus de la défaillance de l'accompagnement et de la paternité spirituelle, c'est le clergé lui-même.
Et quid de la formation des prêtres ? Par exemple, vous évoquez le fait que parfois on peut passer toutes ces années de séminaire, en changeant tous les 2 ou 3 ans, et que du coup, on en tire. Alors ça, c'est un peu plus loin. On peut en tirer la conclusion qu'on n'a pas de père, qu'on est des orphelins, vous dites.
Oui, parce que dans le chapitre avant, je dis que bon, il y a bien sûr l'accompagnateur spirituel qui est quelque chose de nécessairement changeant avec les époques. Le père, lui, c'est une figure qui vous marque. C'est une relation qui s'inscrit dans la durée. Sous ce rapport-là, et si chaque 2-3 ans, ex officio, on vous désigne tel ou tel père spirituel pour vous accompagner, ce sont certainement d'excellents accompagnateurs, ce qui est tout à fait respectable et absolument nécessaire, mais ce n'est pas quand même encore la paternité spirituelle. Puis la paternité, c'est un don, ça se commande pas, ça advient par cette grâce, mais parfois, de fait, il y a un certain air d'orphelinat pour les clercs.
Deuxième pathologie, vous avez commencé à l'évoquer, c'est le formalisme. Ça serait donc une manière d'accompagner qui, à force de vouloir peut-être garder la bonne distance, en ferait trop, et où il n'y a pas d'amour, tout simplement. C'est comme ça qu'on peut le dire.
Je pense qu'il y a un certain amour parce que, encore une fois, on donne sa vie pour les brebis. Hein. Donc en cela, n'allons pas trop vite dans la critique de sacerdoce et de clergé. Mais pour que la paternité puisse advenir comme un don de Dieu, il faut beaucoup de conditions. Parmi ces conditions, il y a une certaine durée. Et si la mission pastorale est conçue par définition comme quelque chose de temporel et d'interchangeable, la paternité, elle, n'est pas interchangeable. On peut bien sûr exercer excellemment, avec sérieux et une charité profonde, ces missions de curé pendant 3 ans, 6 ans pour changer après. On ne change pas de paternité au rythme de déménagement.
Ça, c'est pour le formalisme. Mais quand vous dites peut-on père, c'est vous qui posez la question, hein, peut-on être père sans aimer? C'est donc là, la pathologie, ce serait de le faire en étant trop à distance.
N'est-ce pas? La charité, c'est un amour par lequel on aime ce qu'on n'aime pas. Voilà, faut aimer, mais faut pas s'attacher. Faut aimer, mais faut pas que ce soit quand même cordial et humain. Il y a parfois une manière de concevoir les relations de gouvernance ou d'accompagnement dans l'Église qui manque pas tant de profondeur spirituelle, parce qu'on n'est même pas encore là, qui manque tout simplement de l'humanité.
Ça, c'est dit. Le dilettantisme. Alors, le dilettantisme...
Bon, c'est très simple. Je donne l'exemple qui m'a vraiment frappé.
Les fausses starets, vous dites.
Oui, mais même avant, une brave dame qui dit à un jeune séminariste qui passe dans le séminaire, voilà, j'ai passé les cours de l'accompagnement spirituel, est-ce que je peux être votre mère spirituelle? Voilà, c'est-à-dire
mais que... Mais là, la caricature est énorme, donc on se dit, ça ne doit pas être si fréquent que ça.
Mais ça, cela est arrivé. Et le réel, c'est quelque chose qui ne pardonne pas. Autrement dit, bien sûr, il y a parfois une volonté de se donner dans l'accompagnement spirituel, dans la paternité spirituelle, sans qu'il y ait nécessairement l'étoffe qui permet de le faire, ni la conscience du prix à payer, parce que le prix de l'âme, c'est quand même une vie spirituelle profonde, donc l'union à la croix de Jésus.
Alors, on lit derrière que c'est comme il y a, comme on ne se déclare pas soi-même saint, on ne se déclare pas probablement soi-même sage ou père spirituel ou starets.
Oui, parce qu'une des particularités de la paternité spirituelle, c'est que c'est l'enfant qui vous reconnaît. Vous êtes mon père spirituel. C'est pas moi, je me déclare être votre père spirituel. C'est l'enfant qui reconnaît ce qu'il doit à son père ou à sa mère.
Les deux dernières pathologies, donc ce sont des pathologies là, par excès, non par défaut. Vous le dites, alors pardon, ça peut paraître un peu catalogue pour certains, mais Dieu sait si aujourd'hui c'est important, toutes ces précisions. Je le dis pour ceux qui ne sont pas familiers de ces questions-là. Mais quand on avance, ce sont des clés bien utiles, parce que quand la blessure advient, ce sont des choses tellement intimes que l'on livre dans le cadre de l'accompagnement, que les blessures sont profondes. Alors, les deux dernières pathologies, vous dites, c'est l'autoritarisme et puis après la séduction. L'autoritarisme, à vous lire, ça peut en fait se glisser aussi parfois dans des petits détails. C'est dans telle communauté le supérieur qui décidera ce qu'on doit lire comme livre, par exemple. Ça peut commencer comme ça.
L'autoritarisme signifie que le supérieur, le père ou la mère spirituelle, encore une fois, ce n'est nullement réservé à des prêtres, s'érige en loi. C'est sa volonté qui devient la source de la loi. Autrement dit, c'est son moi qui devient la source de la loi. Et du coup, c'est par rapport à son bon plaisir, à ses décisions, que la règle est perpétuellement adaptée. Et du coup, cette perte de l'objectivité de la règle et de la loi signifie qu'on n'est pas en train de suivre Dieu et l'Évangile, on est en train de suivre le père, la mère, le frère qui est absolument extraordinaire. Et d'un coup, vous remarquerez aussi qu'il y a comme le singulier absolu qui apparaît, le père, la mère, le frère a dit, vous voyez tout de suite de qui il s'agit. Voilà. S'ériger en source de la loi, où mes désirs sont des ordres, même si ça passe dans les détails, mais la vie se joue dans les détails. Et pour ceux qui, particulièrement dans la vie religieuse ou dans la vie communautaire, ce qui n'est pas réservé à des religieux, ont payé le prix de cet arbitraire, savent jusqu'à quel point cela peut être destructeur à la longue.
Allez, c'est dit pour les pathologies. On me fait signe qu'il va falloir qu'on fasse plus court que prévu. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va pas faire de pause et on va continuer cette conversation. Vous ne laissez pas sur ce constat douloureux. Vous esquissez donc des voies de guérison. On va donc maintenant les aborder, puis on essaiera de finir peut-être en redisant tout simplement ce qu'est un juste et bel accompagnement ou une juste et belle paternité, puisque on l'a pas exprimé tout à fait clairement. Pour ce qui est donc des voies de guérison, alors il y en a beaucoup. Vous commencez, j'ai envie de dire, par la plus difficile. Alors là, à vous lire, je me suis dit, bah oui, évidemment. Et en même temps, qui peut en être juge? Vous laissez entendre que le bon accompagnateur, c'est celui qui est humble.
Bien sûr.
Comment ça se reconnaît?
Ça se reconnaît par la volonté de la non-efficience. C'est-à-dire ce qu'il y a derrière l'emprise spirituelle, entre autres, qui peut aboutir à des abus sexuels ou non, c'est un peu secondaire, c'est pas le cœur de mon propos. Je sais faire, j'ai une méthode infaillible qui marchera pour toi, et je sais comment faire pour que ça marche dans ta vie. T'as qu'à me suivre. Il y a bien sûr une fascination du pouvoir et de l'emprise qui peuvent être extrêmement puissantes sans que l'abuseur, parce que là il s'agit très clairement d'un abus spirituel, en soit pleinement conscient.
Mais est-ce que cette efficience est parfois aussi, on va dire, caricaturale que ça? Est-ce qu'elle peut pas être plus discrète?
Elle commence toujours d'une manière discrète, mais je prends les formes poussées en quelque sorte à l'extrême pour bien faire voir la couleur chimiquement pure. Parce qu'encore une fois, quand je rapporte telle ou telle phrase, comme par exemple cette phrase absolument extraordinaire d'une supérieure religieuse dite à une de ses sœurs, « Tu ne te reçois pas assez de moi », ça semble être caricatural, et ceci l'est parce qu'il y a derrière une idolâtrie de son ego qui remplace Dieu, et c'est quelque chose d'absolument monstrueux. Mais sauf que vous y entrez peu à peu, insensiblement, tout en étant mené par une admiration ou fascination devant les personnalités de fait extraordinaires. Quand vous êtes médiocre, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile de séduire que lorsque vous êtes brillant ou extraordinaire.
Est-ce que la frontière, ça n'est pas aussi, je ne sais pas si vous en parlez, mais certainement dans votre livre, je ne m'en souviens plus, mais j'ai souvent entendu que l'accompagnateur spirituel ne donne jamais son avis, sauf si on le lui demande, et toujours en fait avec précaution. J'ai souvenir, et ça va vous paraître aussi être une caricature, mais certainement c'est une chose entendue, tel accompagnateur qui laisse entendre que telle personne accompagnée est fait pour la vie religieuse, quand ça n'est qu'à elle, un jour, de le formuler.
Je suis d'accord avec vous sur le principe, en sachant aussi, cela dépend où est-ce que nous nous situons dans ce niveau de l'accompagnement spirituel ou de la paternité spirituelle. Le père abbé du monastère et le père spirituel de ses moines, il ne va pas toujours attendre qu'on lui pose la question. parfois, il est obligé, il doit même, c'est de son devoir pastoral et paternel, aller de l'avant et prévenir certain nombre de choses en disant, voilà, je vois ceci, 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 cela, ça ne me semble pas être juste, non pas parce que cela me déplaît, mais parce que voilà ce que dit notre règle, voilà ce que dit notre tradition, voilà ce que disent les engagements que toi, mon enfant, tu as pris.
Ça, c'est pour le père abbé, mais on n'est pas tous moines.
On
n'est
pas tous des religieux, donc c'est pour ça que je ne ferai pas de cela, il faut attendre que les questions soient posées, une sorte de principe absolu. Même si, ordinairement, bien sûr, le conseil vient comme une réponse à une question posée.
Cette précision est importante. Alors après, il y a toutes les fausses attentes. C'est un peu comme le cléricalisme, à vous lire. On dit souvent que le cléricalisme, c'est aussi, en tout cas, c'est ce que le pape François nous a invités à tous à regarder en face. Le clerc, c'est aussi le laïc qui fait le clerc. Vous avez une phrase forte, vous dites « Nous pouvons chercher à devenir esclaves plus que fils ». Quelles seraient les fausses attentes à corriger ?
Dites-moi ce que je dois faire. Mon père, dites-moi ce que je dois faire. Je ne vous dirai pas ce que vous devez faire. C'est votre vie. J'aimerais que quelqu'un me donne une solution miracle qui résoudrait tous mes problèmes de ma vie familiale, de ma vie professionnelle, de ma vie spirituelle. Et bien sûr, si c'est ça ce que je veux, bah, il y aura quelqu'un qui vous donnera la solution miracle. Et cette solution miracle, comme par hasard, ça sera lui-même. Donc, il y a bien sûr les fausses attentes qui sont d'une certaine manière absolument normales dans les commencements de la vie spirituelle. Sauf que lorsque ces fausses attentes rencontrent les accompagnateurs ou les pères ou les mères dignes de ce nom, peu à peu, ces attentes mûrissent, changent, se trouvent être évangélisées, tandis qu'un abuseur va profiter de ces dispositions défaillantes, qui sont les nôtres, à vous, à moi, à chacun d'entre nous, à tel ou tel moment de notre vie, pour établir son emprise.
Surtout quand on est en situation de fragilité, je le disais parfois, c'est le cas en cas de conversion ou de début de vie spirituelle. Ça, c'est donc pour les fausses attentes. Si on continue, vous parlez de la place des vertus. Alors pourquoi est-ce que vous parlez des vertus ? Là, ça m'a un petit peu surpris. Est-ce que vous pouvez réexpliquer quelle est la pointe de votre propos ? En quoi c'est une voie de guérison ?
Parce que très souvent, dans les cas de l'emprise spirituelle, on fait fi de l'ordinaire et c'est l'argument de l'extraordinaire qui est évoqué sans cesse. Les autres ne peuvent pas comprendre ce que nous vivons. Nous vivons sous l'emprise de l'esprit. C'est pour ça telle ou telle attitude qui est moralement répréhensible, en réalité, peut avoir lieu ici parce que nous sommes dans une relation absolument extraordinaire d'une mère spirituelle avec sa fille, d'un père spirituel avec sa fille, etc. Autrement dit, tout cet espace de la vie ordinaire, normale, d'où aussi l'importance de la loi, peut-être nous aurons un petit temps pour en parler, se trouve évincé. Et les vertus, c'est précisément ce domaine dans lequel grandit notre sanctification d'une manière saine, heureuse, déployée. Autrement dit, faire ce qui est juste et bon, et non pas ce qui est extraordinaire, ce qui relève des temps forts, des pulsions spirituelles, d'émotions absolument extraordinaires. Voilà. La beauté et la noblesse de la vie vertueuse.
Donc, à vous entendre, c'est que le premier, on va dire, premier travail ou le premier fruit de l'accompagnement spirituel, c'est tout simplement de nous apprendre à vivre quotidiennement
dans de la charité et de la justice.
Voilà, charité et de la justice ordinaire, on va dire.
C'est... Oui.
Alors,
c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Et c'est vrai que c'est quand on met un pas devant l'autre aussi qu'un jour on peut prendre des grandes directions si par hasard il y a parfois des choses extraordinaires qui se présentent ou qui sont à vivre. Un autre point, c'est le mépris de la loi. Alors ça va sans dire, mais semble-t-il,
vous dites qu'il
faut le rappeler.
Ça va pas du tout sans dire.
Pourquoi ?
Mais difficile de dire jusqu'à quel point, hein, parce que pendant des décennies jusqu'à nos jours, nous sommes abreuvés par le discours qui dit que la loi c'est l'Ancien Testament, la loi ce sont les pharisiens et les scribes. Nous sommes dans le domaine de l'évangile, donc nous, on est au-delà de la loi. Donc, du coup, la vie quotidienne des vertus, l'observation des dispositions légales, ça, c'est pas pour nous. Voilà, quand vous entendez ce discours de l'enseignement du mépris de la loi, vous pouvez être sûr que ce discours prépare le lit des abus spirituels.
Alors, exemple, vous pouvez prendre un exemple ?
Mais bien sûr, dès que vous prenez le déploiement de n'importe quelle communauté qui a mal tourné, vous avez toujours cette matrice qui est répétée. Le droit canon tel quel, avec ses obligations, ne doit pas s'appliquer à nous parce qu'on a un charisme particulier, parce qu'il y a le travail de l'esprit qui est absolument exceptionnel. Et quand on dit oui, mais la loi dit que, oui, mais vous comprenez, la loi, c'est les pharisiens, et ça y est, c'est reparti.
Allez, on va finir par une note positive. Il nous reste 5 petites minutes pour ce qui est de la paternité spirituelle. Alors, je vais vous demander, si c'est possible, peut-être de parler un peu à la première personne. D'ailleurs, vous le faites dans votre ouvrage. Dans le fond, à quoi ça ressemble, la paternité spirituelle ? À quel trésor peut-on s'attendre dans sa vie ? Il me semble que quand vous en parlez, c'est que vous dites qu'un homme ne se fait pas quelque part qu'avec un seul père, mais avec plusieurs, et que vous-même, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est aussi ce que vous avez reçu.
Bien sûr. Et j'avoue que plus j'avance, plus je suis sensible à cette note quelque peu confucéenne, si j'ose dire, cette immense reconnaissance vis-à-vis de mes maîtres, de ces personnes qui ont marqué mon chemin et mon existence. Pas nécessairement dans la vie spirituelle, au sens étroit du terme, mais tout simplement dans la vie intellectuelle, dans la vie humaine. Voyez-vous, quelqu'un qui a attiré votre attention, regarde, ça c'est beau, et pour la première fois, vous avez vu la beauté de la chose, pas ce que quelqu'un vous a engendré à cette découverte de la beauté par ce regard orienté. Ma vie de prière, ma vie de quelques connaissances dans la théologie, ce que je peux faire, ce que je peux prêcher, la manière de gouverner dans l'ordre dominicain, doit énormément à nos anciens, à ceux qui nous ont précédés. Et je bénis le ciel de m'avoir fait bénéficier sans aucun mérite de ma part, sans aucun mérite de ma part, par une sorte de gratuité absolue, de bienveillance inexplicable, de ces rencontres qui m'ont rendu plus libre, qui m'ont rendu plus moi-même. Et la joie de ces personnes, de ces pères, de ces mères spirituelles, c'était aussi de s'effacer pour que moi je puisse continuer ma route. Et je souhaite à chacun d'entre nous de vivre d'un côté ces rencontres où nous recevons, mais aussi où nous pouvons donner aux autres. Cette joie de la vie filiale de Dieu, dont les signes qui ne trompent pas sont la liberté, l'immense joie sereine, heureuse et charitable.
Et ben voilà, merci beaucoup et pardon à vous et aux auditeurs pour cette émission un peu écourtée. Voilà, c'est ça les aléas du direct quand on essaie ici au Rosaire. Vous voyez pas l'envers du décor, mais il y a du monde qui se bouscule au portillon car il y a beaucoup d'invités à recevoir et de directs à assurer. Merci beaucoup Pavel Sisoyev d'avoir fait un détour par nos studios. Je rappelle que vous étiez donc le prédicateur de ce pèlerinage du Rosaire 2020 et vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage intitulé « De la paternité spirituelle de ses contrefaçons » paru aux éditions du Cerf. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Cette émission a été réalisée par Philippe Subercase et Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.